on a dit qu'il y avait, à l'époque, après l'époque de les Amoraïm, il y avait ce qui s'appelait l'époque de les Géonim. Géonim, on a parlé l'autre fois. Le mot Gaon en hébreu, c'est un génie. Ça veut dire, c'était une époque où il y avait Rav Seadia Gaon, Rav Hai Gaon. Vous connaissez tous le chant que certains ont l'habitude de dire tous les matins dans la Tfila qui s'appelle Adon Olam, n'est-ce pas? Adon Olam, il a été écrit à cette époque-là. Un des Géonim, il a écrit ça. Mais non, les Géonim, le mot Gaon, c'est combien la valeur numérique du mot Gaon? Ce qui est fort en calcul. Gaon.
C'est
60. En général, parce que chaque Gaon, il connaissait tous les Shishim Asertot. Il connaissait tout le Talmud. Donc ça, c'était les Géonim. Il y a Rabbi Yehuda Hanassi, que lui, c'est lui qui a écrit le livre de la Mishnah. On va parler un peu de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il avait plusieurs noms. Chaque fois que la Gemara, elle dit le mot Rabbi, Rabbi, ça veut dire c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Ou Rabbeinu HaKadosh. Il s'appelait Rabbeinu HaKadosh, c'était peut-être le plus grand de sa génération. Lui, il était à l'époque de Antoninos. Antoninos, on connaissait tous l'histoire. L'histoire, elle est très connue, qu'à son époque, quand il est né, quand il était bébé, il y avait un décret de le roi romain qui lui a dit que c'est interdit de faire les Brit Mila pour les enfants. Alors, et une fois, le papa de Rabbeinu HaKadosh, lui, il a fait quand même la Brit Mila. Il a dit quoi? Mais je vais écouter d'abord HaKadosh Baruch Hu. Je ne vais pas écouter ce roi-là. Il y a un des ministres en Israël qui l'a appris que le papa de Rabbi Yehuda Hanassi, il lui a fait faire la circoncision, la Brit Mila. Il a dit, t'es obligé d'aller à Rome, parler et raconter ça au roi. T'es obligé. Je t'aime beaucoup, mais t'es obligé parce que le roi, il a dit qu'on n'a pas le droit de faire. Toi, t'as fait cette chose-là, va. Alors, quand il est parti sur le chemin, la Gemara, elle raconte cette histoire-là, qu'il est arrivé dans une auberge. Et dans cette auberge-là, il y avait la patronne de l'auberge. Elle aussi, elle avait un bébé qui venait de naître. Et la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, elle lui a raconté, voilà, il y a un grand problème, on n'a pas le droit de faire la circoncision. Et on a fait ça, et je crève de peur, qu'est-ce que le roi de Rome il va nous dire? Alors la patronne, elle a dit, tu sais quoi, regarde, de toute façon, moi aussi, mon bébé, il est né il y a plusieurs jours. Viens, on change les bébés. Toi, pour l'instant, tu vas prendre mon bébé, et moi, je vais garder ton bébé. Et quand tu vas revenir de ce roi-là, alors à ce moment-là, on va se changer les bébés. Et il y a écrit que donc la maman, avec son mari, sont partis à Rome, ils ont pris le bébé, en fait, ce n'était pas son bébé à elle. Et le roi lui a dit, pourquoi vous avez fait la circoncision? J'ai dit qu'on n'a pas le droit. Alors la maman lui a dit, non, on n'a rien fait du tout. Ils ont pris le bébé, ils l'ont déshabillé, ils ont regardé que vraiment, il n'a pas fait la Brit Mila. Alors ils se sont mis très, très, très en colère pour celui qui a dit que, et en fait, ils ont fait la Brit Mila. Et le roi, à partir de ce moment, il a décidé, j'arrête avec ce décret-là de Brit Mila. Tous les Juifs, ils ont le droit de faire la Brit Mila. La maman et son mari, ils sont revenus dans l'auberge, ils ont récupéré le bébé. Mais ils ont récupéré leur bébé. Maintenant, puisque la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, elle lui a donné du lait à ce bébé qui était en fait Goy, alors plus tard, après ce qu'il s'est devenu, il est devenu Antoninos. Antoninos était un roi, quelqu'un qui était très important chez les Romains, et il est devenu bon copain avec Rabbeinu HaKadosh. Tellement il est devenu bon copain, il a commencé à étudier la Torah jusqu'à qu'il s'est converti. Donc ça, c'était Rabbeinu HaKadosh. On dit pourquoi il s'appelait Rabbeinu HaKadosh, parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était très, 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 très saint. Il était très, 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 en plus qu'il était très, très, très riche, et lui, il a décidé de faire quelque chose comme ça. Lui, il savait parler très, très beau. Il a écrit, il y a plusieurs histoires dans le Talmud, qu'il y avait des Chachamim qui savaient tellement bien parler, tellement ils attiraient le monde quand ils parlaient. Il y avait un Chacham que des fois, quand il parlait, on l'amenait dans les fêtes, même qu'il y avait un repas devant les gens. Tellement ils écoutaient et ils avalaient de soif tout ce que ce rabbi disait, personne ne mangeait, personne ne buvait. Tellement ils étaient attirés par ce chacham-là qui parlait, ils savaient tellement bien parler que ils n'avaient pas envie de faire quoi que ce soit, rien que d'entendre. Donc lui, Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a ouvert une yeshiva. Et dans cette yeshiva-là, il a décidé de faire quelque chose. Puisque... il a écrit le livre de la Mishnah. La Mishnah, c'est la base de la Gemara. Alors la Mishnah, comme on a dit peut-être l'autre fois, c'est comme c'est des petits textes de la Torah orale. Vous connaissez tous Pirkei Avot. Pirkei Avot, Nachon, Moshe, Kibel, Torah, Misinai. Tous ces petits versets-là, ils sont très, 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 très ils sont très courts, mais ils amènent une chokma qui est très très grande. Ça, c'est un exemple de les Mishnayot. Il y a dans tous les livres, donc dans toutes les Gemarot, les Mishnayot, ils sont basés sur les Mishnayot. Donc, c'est des petites phrases qu'ils représentent en fait toute la Torah orale. Et toute la Torah orale, après la Gemara, c'était une époque où Chachamim, ils ont décidé d'écrire les explications sur les Mishnayot. Et comme ça a été créé la Gemara. Le Talmud, on a le Talmud, le premier c'est le Talmud Yerushalmi, et après on a le Talmud Bavli. Le Talmud Yerushalmi, il a été créé à peu près dans l'année 400, donc il y a 1600 ans en arrière, il a été écrit à Yerushalayim par Rabbi Yochanan. L'autre Talmud s'appelle le Talmud Yerushalmi, donc dans l'année 500 à peu près, il y a 1500 ans en arrière, il s'appelle le Talmud Bavli, il a été écrit dans Babel. Dans toutes les yeshivot de nos jours, on a l'habitude, on étudie pratiquement rien que le Talmud Bavli. Pas beaucoup le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, c'est les grands Talmudei Chachamim qui ont appris déjà une bonne partie le Talmud Bavli. Après, ils peuvent commencer à étudier le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi, même qu'il a été écrit en Eretz Israël, vous savez qu'en Eretz Israël, à l'époque, les gens ils ne parlaient pas hébreu. Ils parlaient araméen. Ils ont appris ça quand ils étaient en exil en Babel. Ils ont appris la langue araméen, ils avaient l'habitude rien que de parler dans cette langue-là. Pour les livres, pour les livres de Torah, pour les explications, ça c'était en hébreu. Mais ça veut dire la langue qu'ils utilisaient sans arrêt, c'était le araméen. C'est pour ça qu'on voit souvent dans les Chumashim, il y a le Targum Unkulus. Targum, Yonatan Ben Uziel. Perush, Yerushalmi. Il y a plusieurs explications pour la Torah. C'est des Chachamim de l'époque qui ont écrit ces choses-là. Ils ont écrit par rapport à le public, puisque lui comprenait l'araméen. Ils ont traduit ça, par exemple, Targum Unkulus, c'était traduit en araméen. Rabbi Yehuda Hanassi, donc lui, il a décidé d'écrire le livre de la Torah Shebe'al Peh. Et à partir de ce moment-là, les gens, ils ont commencé à écrire. Ça veut dire toute la Torah qu'ils avaient l'habitude de l'étudier oralement, Torah Shebe'al Peh. Alors, ils avaient le droit de commencer à écrire ça. Il y a une très, très grande question qui est demandée que normalement, la Torah oral, on n'a pas le droit de l'écrire. Torah Shebe'al Peh, on n'a pas le droit de l'écrire. Comment ça se fait que Rabbi Yehuda Hanassi, il a fait cette chose-là? Alors, c'est le Rambam, il explique cette chose-là, il dit comme ça. Le Rambam, et j'ai amené ici aussi dans le livre qui s'appelle « Me'am Loez », un livre qui a été écrit à peu près 200-300 ans en arrière. C'est un très 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 beau livre, qu'il englobe énormément des explications dans toute la Torah. Dans ce livre-là aussi, il existe en français. Et là-bas, c'est raconté comme ça. Rabbeinu HaKadosh, il voyait qu'il y a des grands problèmes dans le monde. Il y a l'exil, il y a les Juifs, ils sont en train de partir en exil. Il avait très 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 peur, avec tellement qu'il y avait des problèmes, il a eu peur que Chas v'Shalom, la Torah, elle va se faire oublier. Donc lui, il a décidé que les Juifs, si vous partez, Chas v'Shalom, vous devez partir en exil, au moins vous allez avoir un livre, le livre de la Mishnah, comme ça vous allez vous rappeler sans arrêt de la Torah orale. Alors lui, il a écrit la Mishnah, comme ça la Torah, elle ne va pas se faire perdre. Il y a, après Rabbeinu HaKadosh, il y a des autres Chachamim qui ont commencé à écrire leurs livres. Rabbi Chia, il a écrit la Tosefta, Rabbi Oshaya, Bar Kappara, ils ont écrit le Braïta, je vais expliquer. Rabbi Chia, la Gemara, elle raconte une histoire extraordinaire sur lui dans le Talmud Bavli, dans le Maseret Baba Metzia. Rabbi Chia, lui, c'était quelqu'un qui mettait des plantes dans la terre, Ken, lui, il écrivait des sifrei Torah, il enseignait la Torah à les enfants. Et maintenant, c'est lui qui fabriquait les rechatot. Rechatot, ça veut dire c'est les ficelles pour attraper des animaux. Quand il attrapait des animaux, qu'avec eux, qui sont tahor, on a le droit de prendre leur peau et de faire de ça et sefer Torah. Alors lui, il attrapait les animaux, il faisait la shrita, il donnait la viande à manger à les pauvres, et avec la peau, il écrivait les sifrei Torah. Et les sifrei Torah qu'il les écrivait, il enseignait dans chaque endroit, il partait dans les villages, de partout où il y avait les juifs, et il enseignait la Torah, il leur laissait les sifrei Torah, il leur enseignait la Torah. La Gemara, tellement, elle dit comme c'est extraordinaire ce qu'il a fait, Chia. Alors la Gemara dit « Gdolima, c'est Chia ». Les actions de Chia, ils étaient tellement élevées, et surtout le salaire qu'il reçoit, la Gemara raconte que dans l'Olam Haba, son salaire, il est très, 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 très élevé. Celui qui enseigne la Torah, celui qui est Mezakeh Rabim, celui qu'il partage tout ce qu'il sait, il partage à les autres, c'est écrit que c'est quelque chose qui est très, très, très grand. Le salaire, il est très élevé. Le livre Chovot HaLevavot, il a été écrit à peu près il y a 1000 ans en arrière. Il dit, c'est pas pareil quand quelqu'un, il étudie pour lui-même ou quelqu'un qui l'enseigne la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah pour lui-même aussi, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Mais il y a un niveau encore plus élevé, c'est celui qui enseigne tout ce qu'il sait à les autres. Parce que quand on enseigne la Torah à les autres, il y a écrit, le but de la Torah, c'est l'ilmod, almenat, l'elamed. Il ne faut pas garder la Torah pour nous-mêmes. Normalement, j'ai dit déjà l'autre fois, chaque maître, toute la Torah qu'il sait, tous les détails qu'il sait, en petits détails, il faut tout raconter à les élèves. On n'a pas le droit, ce qu'on a appris, le garder pour nous. Il faut toujours l'enseigner pour les autres. Les Chachamim de l'époque, après Rabbeinu HaKadosh, donc ils ont écrit le livre, je vais expliquer. Il y a la Tosefta, il y a la Braïta. C'est quoi la Tosefta? Tosefta, c'est bien du mot Tosefet. C'est quoi Tosefet? Tosefet en hébreu? Le Osif, qu'on rajoute quelque chose. C'est-à-dire, même que le Talmud, quand il était créé, sur le Talmud, on n'a pas le droit de rajouter quoi que ce soit. On n'a pas le droit d'être Cholkim. Ça veut dire, on n'a pas le droit de dire, non, c'est pas vrai ce qu'ils ont dit, c'est les Chachamim de la Oh, il va avoir de dire quelque chose comme ça. On n'a pas le droit du tout de dire des choses comme ça. Ils ont rajouté encore un chibour, ils ont rajouté encore un livre qui s'appelle l'Otosefta. Dans toutes les gemarotes, quand vous ouvrez, passe-moi la gemara là, je ne sais pas s'il y a dans les petites gemarotes, plutôt pardon, celle-là, dans cette gemara là, normalement c'est sûr, vous allez voir que c'est encore c'est rempli, rempli, rempli à la fin de les gemarotes, il y a ce qui s'appelle l'Otosefta. Ça veut dire, même là c'est la gemara Baba Metzia. Donc Baba Metzia, au départ, il y a toute la gemara, mais il y a un chibour, un livre encore qui a été écrit sur Baba Metzia à la fin, ça s'appelle la Tosefta. C'est comme des petites phrases avec des halachot de Baba Metzia. Mais non, ça c'est la Tosefta. Et il y a aussi la Braïta. Braïta, c'est quoi la Braïta? Dans le livre de la Mishnah, Rabbi Yehuda Nassi, il a écrit, tous les Mishnayot, ils se trouvent dans le Talmud. Mais non, il y a certaines Mishnayot qu'on ne les a pas mis dans le Talmud. Et on a fait de ça, et ça s'appelle des braïtot. Les braïtot, ils sont parpillés, ce n'est pas des mishnayot, mais ils sont équivalents à les mishnayot. Ils sont parpillés un peu dans tout le chasse. Ça, c'était écrit par Rav Hoshaya et Bar Kappara. Mais non, il y a encore des autres hachamim que chacun, il a rajouté son explication, par exemple, sur les chumashim. Rabbi Akiva, il a fait un midrash qui s'appelle la Mechilta, sur Shmot. Rav Hoshaya, il a fait sur Bereshit. Il y a encore beaucoup de Chachamim. Rav, il a fait un livre sur le Chumash Vegri, il s'appelle Sifra. Il y a encore beaucoup, beaucoup de Chachamim qu'ils ont rajouté. Maintenant, le Rambam, il dit comme ça. Bazman Hazé, le Rambam, il était à peu près il y a 1000 ans en arrière. Il dit comme ça. Takfu Hatzarot, il y avait tellement de problèmes dans le peuple d'Israël. Vedachaka Shaet Akol Vavda Chokhmat Chachamenu Binat Nevonenu Nistara. Ça veut dire la sagesse de les Chachamim, elle commençait à se oublier. Alors lui, qu'est-ce qu'il a décidé? Les Fichach, il dit le Rambam comme ça, « Otam ha-perushim ve-alachot » les explications qu'il a reçues de ses maîtres, qu'il a appris de les Géonim, de tous les Tchouvot. J'ai expliqué déjà l'autre fois qu'à l'époque, il y avait des gens qui envoyaient des lettres à les grands Chachamim, à les Géonim. Les Géonim, ils avaient des Yeshivot. Et la Gemara, elle amène quelque chose qui se trouve dans Masechet Brachot. Les Chachamim de l'époque, il y avait des très très grandes yeshivot, surtout dans les endroits qui s'appellent Sura, Pombita, Naharda, c'était en Babylonie, il y avait des grandes yeshivot. Ils avaient l'habitude là-bas, 2 mois dans l'année, tous les Bnei Israël, tous les Juifs qu'ils étaient, okay, même les commerçants, ceux qui travaillaient la terre, les agriculteurs, ils venaient tous venaient étudier la Torah. Il y avait 2 mois spécifiques dans l'année qui venaient pour étudier la Torah. Ils fermaient tous leurs magasins, toutes les affaires, ils venaient étudier la Torah. C'était le mois de Elul et le mois de Adar. Le mois d'Elul, ils venaient tous pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que le mois d'Elul, c'est la préparation pour le Chodesh Tishrei. Chodesh Tishrei, c'est, on a les événements qui sont très importants, c'est Rosh Hashanah, Yamim Norim, Yom HaKippurim, Sukkot, Shmini Atzeret. C'est rempli de détails dans Halakha, c'est rempli, il y a des milliers de détails. Quand vous ouvrez par exemple le Mishnah Berurah, tous les livres de la Halakhot, c'est par exemple sur la Souka, comment il faut construire la Souka, c'est rempli de détails. Les Chachamim de l'époque, tous les Juifs, ils venaient dans le Beit HaMidrash, ils venaient le mois de Elul pour étudier, surtout aussi les Halakhot de Tshuva, l'Halakhot Tshuva, parce que quelqu'un, Khadisham, il a fait quelque chose de pas bien, il faut savoir comment faire Tshuva. Une fois, le Rav Shlomo Zalman Oirbach Zatzal, il a demandé, il a dit, comment c'est possible? Il était possède pendant plus d'une cinquantaine d'années. Il a dit, c'est incroyable, les gens, ils viennent me demander des conseils dans, est-ce que j'ouvre ce magasin, est-ce que j'ouvre cette affaire, est-ce que j'achète ces actions-là? Tous des conseils qui sont de finances, de les affaires. Personne n'est venu une fois me demander une question dans une Chot Shuva, comment on fait Shuva, si j'ai fait telle faute, comment je peux me rectifier, comment je peux réparer. C'est bizarre, malheureusement, car les gens ne savent pas l'importance qu'ils ont aussi de la Shuva. Ce Rav, il a dit, c'est incroyable, pourquoi ils ne me demandent pas des questions de Halakha Mamash, c'est une Chot Shuva, Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, il faut faire Shuva, comment faire Shuva ?